podcast.com. Essaye ça.
Hey, salut tout le monde, bienvenue à Terrain Basique, le plus québécois des podcasts sur Magic the Gathering. Aujourd'hui, Magic en tabarnak, on va même aller aux States, c'est le voisin du sud. Mon nom est Tommy Godet, je suis accompagné de Nounours et de Andy, tiens, ça va?
Ouais, oui.
Ah, ça c'est une face d'un gars qui a Magic Arena cette semaine, ça.
Ben, j'ai fait ça hier, puis là, j'étais encore... J'ai fait ma deuxième game de mon draft, puis là, j'étais encore manascrew à deux manas, puis j'en ai assez de manas. Posez-moi pas cette petite question-là, j'en ai. Là. Et j'en ai tellement que je joue encore vert bleu, c'est le même deck. Puis tu sais, il y a du card draw, là, tu sais, comme tu piges deux cartes, discardes deux cartes, là, puis je pognais pas de mana. Puis là, j'étais en train de me dire, Chris, j'ai payé 10$ pour ce petit draft. Hey, c'est-tu quoi, je vais aller le désinstaller à Arena? Drette là, tabarnak.
Attends, mais il y a un draft gratuit que tu peux faire, là.
Mais calice.
Il y a un Phantom bon. Draft de Brothers War.
Ok, je vais m'en retenir, là, mais.
Tu peux jouer autant que tu veux.
Ok. C'est bon. Merci, tu m'as convaincu. Part de ça, je fais des dumplings, puis Disney vient de m'envoyer un email pour me dire que tous mes leechers, life sucks. On s'est pas battu assez fort contre Netflix, ils ont gagné, fait que le Disney s'en va dans la même gang. Ce qui veut dire que tous mes leechers, ben, vous pouvez plus bientôt être mes leechers.
Ça vous apprendra.
Ça nous apprendra collectivement à être niaiseux puis de se réabonner à Netflix. On a tout perdu. Moi, je me suis pas réabonné à Netflix. Hein, puis je sais pas ce que je vais faire avec Disney. Puis je pense que je m'enligne vers une rotation de tous mes services une fois par mois. Fait qu'au lieu de payer 40-50$ à tous mes services, ben, je vais en payer 10 par mois. Puis je vais pirater le reste. Fait que...
Ouais, tu connais ça, Plex? Moi, j'adore Plex.
Ben, on s'en va vers là, on revient à il y a 20 ans, là, le bon piratage, comme dans le bon vieux temps. Il faut y retourner, ils sont trop. Tout le monde est comme. Tout le monde veut de l'argent.
Ouais, ouais. Les plateformes de streaming, moi, j'adore Tubi, genre comme leur plateforme et TCA. Mais en tout cas, c'est.
Moi, je me rappelle à Val-d'Or en 1997, à un moment donné, on a demandé au Vidéotron, on était rendu à combien d'argent sur mon compte. Puis en 3 ans, j'avais investi 10 000 $. C'était 10 000 $ au Vidéotron.
Fait que, c'est fou, hein?
La culture, c'est plus compliqué dans le temps, on va se le dire. Vive Internet.
Quand tu y penses,
hein? D'être avec nous autres, ben oui, vous avez entendu Emmanuel, c'est lui qui a préparé le show ce soir, pas mal.
Yes sir, je me suis tenu au parfum à distance là, du Magic Con Vegas, là, ça brassait pas mal, c'est passé plein de belles affaires, on va en parler.
D'accord, il n'y a pas été hein, finalement à Las Vegas?
Il me semble pas.
Tente pas, mon opi.
Ben
à moins qu'on ait passé des grosses soirées, puis on s'en rappelle vraiment pas. Là.
Ben, il y a peut-être dans le futur, voyage dans le temps, puis là, vous êtes retourné. Écoute, tout est possible, là, le Dinora Caron. On va y revenir, mon cher Emmanuel, mais avant, on va savoir c'est quoi que vous entendez en background. C'est Jonathan qui l'a choisi. Salut, man.
Ouais, ben aujourd'hui, je pense que ben du monde se sont fait demander c'est quoi leur franchise avec des dinosaures dedans le plus populaire. Fait que je me suis aussi bien y aller avec Cadillac and Dinosaur, que j'aime bien. Un excellent jeu de CPS1. Si vous avez quelques minutes, achetez pas la machine d'arcade, trouvez ça. Puis
c'est ça, hein, c'est en arcade, ça. Hein?
Ouais,
c'est un souvenir d'arcade, ouais, c'est ça.
C'est un beat'em up. Là, de...
ouais. Ouais, c'est un beat'em up de Capcom sur leur première génération d'arcade.
Ça, je trouve ça pas pire parce que ça fait une espèce de lien avec tout ce qu'on vient de parler parce que ça, Cadillac et Dinosaur, c'est inspiré d'une BD qu'il y avait dans Heavy Metal dans le temps. Puis la BD de Heavy Metal, c'est que dans le futur, l'humanité manquait de nourriture. Fait que là, ce qu'il faisait, c'est qu'il avait développé le voyage dans le temps puis il allait chasser les dinosaures dans le passé avant que le météore vienne les rendre extincts. Fait que ça changeait pas grand-chose pour le futur. Fait que là, il tuait des dinosaures puis là, il les envoyait dans le futur sous forme de burger haché. Fait qu'on vendait des brontos. On mangeait des brontos burgers dans le futur. C'est ça.
Ouais, c'est l'œuvre d'un.
Tu t'es mélangé, on venait de parler de voyage dans le temps, tu parles de dinosaures, tu parles de tout. Même
il y a les dumplings de Andy. Un discours de s'animer, genre. Le BDF, ça a quand même réussi. Il s'est rendu loin avec son projet de multiplateforme, mais malheureusement, il n'a pas frappé un home run. Mais ceux qui s'en souviennent bien. Hein.
C'est ça. Ceux qui sachent, ils sachent la
le sachons.
On va pouvoir passer à caster des spells, puis vous allez être content. Tantôt, mon deck de Vexing de Devil, il est bien plus fort avec les Vexing Devil. Je sais que
écoute, c'était un excellent segue. Parlant de dinosaures, on a eu un premier aperçu de Lost Caverns of Ixalan. Parce que oui, là, ça se passe dans un mois. Ils vont commencer les previews, okay. Là, les vrais previews. Puis ça sort mi-novembre, le global release, là, le 17 novembre de Lost Caverns of Ixalan, le prochain set de standard qui va sortir. Donc on retourne sur Ixalan après Rivals. Et, puis,
c'est ce que j'ai hâte, j'adore ça, c'est un monde-là.
Ouais, un monde de pirates, de dinosaures, de vampires, de mésoamérique, très inspiré, oui, de mésoamérique. On peut voir sur l'image deux personnages qu'on reconnaît, Watley, là, qui est la native de Ixalan, et Quintorius, le retour du Loxodon Planeswalker, qu'on espère qu'il n'a pas perdu son spark là, après.
Ben, c'est plate pour lui parce qu'il est
après l'avoir
deux secondes.
c'est pas encore confirmé, là, dans les textes, là, comme ça. Ils disent le Planeswalker Quintorius, là, mais ça se peut que ce soit juste la personne qui a écrit l'article qui est pas au courant de tout le lore, mais on verra, mais on devrait s'attendre à ce qu'il y ait une carte de Quintorius. Le art a été sorti, là, on sait pas la carte, là, mais ça s'appelle Quintorius Cand. Et je suis retourné voir là, les différents Planeswalker qui ont eu plusieurs cartes en tant que personne et en tant que Planeswalker. Puis à chaque fois qu'il y avait le nom complet de la personne, c'était une carte de Planeswalker. Il y a eu Sarkhanvol, pas Teferi, Time Mage, là, quand que c'est le nom Chandra Nalar, c'était un Planeswalker. Fait qu'on a bon espoir là, qu'ils vont pas y refaire le coup de le mettre en dehors de l'école militaire, parce que c'est ça qui était arrivé avant d'aller à Strixhaven. Spark for Quintorius hashtag. Sinon, Kellen, lui, ça fait pas longtemps qu'on l'a vu. Là, il revient directement de Wilds of Eldraine. La dernière fois qu'on l'a vu, il se garnotait dans un Omen Path. Et puis, ben, on peut se douter que le Omen Path l'amène donc sur Ixalan. Donc, Kellen, Daring Traveler, fait qu'on n'aura pas attendu trop longtemps avant de le voir, fait qu'on peut se dire que c'est peut-être un des personnages centraux là, du Omen Path arc là, dont il parlait, là, qui va se passer sur les prochains sets. Là.
C'est notre trame narrative, là, c'est notre.
Oui, voilà, c'est peut-être
notre voyageur, plus, c'est, ouais.
le fil là, qu'on va suivre. également, le retour de Saïli de Sons Brilliance, là, Planeswalker de Kaladesh, qui, elle, semble-t-il, aurait perdu son spark et qui était aussi la copine de Watley. Fait que là, elle fait des espèces de mix là, de dinosaures et de robots pour comme allier les deux mondes. Donc Watley, on a vu sa carte, là, c'est une des premières cartes qui ont révélé pour le set. C'est Watley, Poet of Unity. Deux colorless, un vert pour une 2-3 Human Warrior Bard. Sa multiclasse, écoute, rendu là. Hein. Et puis oui, vous l'aurez constaté, là, elle a perdu son spark. Donc, si vous regardez la carte, il y a un watermark là, qui appelle le symbole en arrière du texte. C'est le symbole qu'ils vont utiliser pour les cartes d'anciens Planeswalker. Donc, c'est comme le D-Spark symbol.
Ben, c'est le symbole de War of the Spark, me semble.
C'est le symbole de Magic avec une espèce de lightning bolt au milieu, là, d'espèce de fracture.
Non, le triangle, les cinq triangles, puis c'était le symbole de War of the Spark, c'est pas vrai.
Les cinq triangles.
Non, mais le symbole. Le
cinq triangles vers le haut. Puis
comme la main, là, c'est comme une main. Ouais, c'est ça.
Ben, c'est le symbole là, que Magic utilise là, un peu partout. Là. Ouais. Donc, c'est une 2-3 quand elle rentre sur le battlefield. Tu cherches ton deck pour un Basic Land Card que tu révèles, là, que tu mets dans ta main. Ensuite, tu shuffles ton deck. Et puis, pour 3 colorless et 2 mana hybrides blanc-rouge, tu exiles Watley et tu la retournes sur le battlefield transformée sous le contrôle de son propriétaire. Tu peux seulement le faire en sorcery parce que de l'autre bord, c'est une barde, hein, c'est une poète. Qu'est-ce que tu penses pense qu'il va y avoir.
Il va y avoir un No Man.
Il va y avoir un concert.
Une saga. Une saga, hein, c'est thématique. Donc, tu peux la transformer en saga de 4 chapitres. Premier chapitre, tu crées 2, 3 Green Dinosaur Creature Tokens. Ça vient avec le pas mal le Watley, là, on le reconnaît. Deuxième chapitre, la saga elle-même gagne que les créatures que tu contrôles peuvent taper pour un rouge, un vert ou un blanc. Puis ça fait que ça va rester là, jusqu'à la fin de la saga, là, jusqu'à ce que tu l'aies plus, là, parce qu'elle gagne cette habilité-là. Troisième, tu cherches ton deck pour un dinosaur card que tu révèles, que tu mets dans ta main, ensuite tu brasses. Et puis quatrième chapitre, tes dinosaures que tu contrôles gagnent Double Strike et Trample jusqu'à la fin du tour.
C'est du beau ramping, ça?
C'est du beau ramp, c'est du beau, de la belle technique pour mettre dans un deck de gros dinosaures.
C'est une créature quand même qui est deux colorless, un vert pour une 2-3 qui te fait chercher une laine, c'est pas pire. Non?
Qui te ramp, là, ben oui. Oui, ça te rampe pas, là, mais oui, ça fait du mana fixing, surtout dans un deck. Ça hint là, que tu veux être en vert, ben rouge oui. Et blanc. Là,
on est en 3 couleurs, ouais, c'est ça. Là,
ouais. C'est généralement, là, c'était les couleurs aussi qui avaient pas mal les dinosaures là, dans les sets précédents. C'était très tribal, là, pardon, typal, c'est la nouvelle façon de le dire.
C'est vrai. Excusez, je suis pas à jour, mais pourquoi ça fait trop comme...
Parce que vous irez vous renseigner. Là.
Bon, le c'est une des recommandations que lorsque... Les RH Hasbro ont engagé une firme extérieure, puis il y avait une liste. Puis, il y a certains items de la liste que les employés ont leaké, puis celui-là, il a viré viral.
Voilà.
Okay. Ben, c'est correct. Je comprends.
Honnêtement, on va pas, coller le lait avec ça. Là. Donc, oui, tu as fait que les couleurs, les types de créatures étaient très importantes dans les différentes couleurs. Tu avais les merfolk dans le bleu, vert, les vampires noir et blanc, etc. Puis les dinosaures, ça se retrouvait pas mal rouge, vert et blanc. Fait qu'on voit que ça risque de revenir pas mal à ça. D'autres cartes, les pirates, un gobelin pirate. Puis on se rappelle que les gobelins sur X-Alan sont comme des singes un peu. Là. C'est ouais. Des espèces de petits de créatures un peu siniesques.
C'est dans mes gobelins.
Ouais. Sont nice. Le Breaches, Eager Pillager, c'est le retour d'un personnage. Là. C'est pas un reprint, là, mais c'est une nouvelle carte de Breaches. 3-3 pour 2 colorless, un rouge. 3-3 first strike. À chaque fois qu'un pirate que tu contrôles attaque, tu choisis une des options qui n'a pas été choisie ce tour-ci. Soit tu crées un treasure token, soit il y a une créature qui ne peut pas bloquer ce tour-ci, ou tu exiles le top card de ton deck et que tu peux la jouer ce tour-ci. C'est pas pire, ça, dans un deck aggro, là, un deck de créatures.
J'ai une question, Nounoun. Le nom là, de l'artiste, là, qu'est-ce qui se passe?
C'est probablement son nom, tu sais, son nom de blog ou de.
OK.
Tu sais, son website, ouais. Là.
C'est on comme est rendu
si,
là.
Ben, c'est comme si Frankovic qu'on a reçu là, 2 semaines ou après, là, c'est comme s'il y avait ces deux noms qui se retrouvaient là.
Ah oui, je comprends, OK, oui.
Parce que lui, c'est Rafal Werkterovic, entre parenthèses, Too Many Skulls.
Oui, c'est ça, OK, cool.
Bon, je pense qu'on risque de voir ça de plus en plus, parce que la présence des médias sociaux, puis d'être facilement reconnaissable, c'est de plus en plus important, c'est les travailleurs autonomes, peu importe le domaine, fait que...
Le branding.
Cool. Yep.
The Skull Spore Nexus, 6 colorless, 2 verts, un legendary artifact qui coûte X de moins casté ou X et le greatest power parmi les créatures que tu contrôles. On reconnaît un peu ce pouvoir-là, c'était sur Galta dans le dernier set là, de X-Alan. À chaque fois que un ou plus non-token creature que tu contrôles meurt, tu fais un green fungus dinosaur creature token avec un base power et toughness équivalente au total power des créatures qui sont mortes. Et tu peux payer 2 colorless, la taper pour doubler la power de target creature jusqu'à la fin du tour. Pour peut-être créer un fungus dinosaure encore plus haut.
Ben oui.
C'est-tu moi qui hallucine ou les couleurs des symboles du 7 sont comme un petit peu durs à distinguer? Il me semble que je vois ça depuis tantôt. Là, comme, ah, puis ça, c'est mythique, mais ça paraît pas super gros que c'est mythique.
Ouais, ben des fois, ça dépend. C'est là, quand le logo est comme plus chargé, ça fait moins de place pour que les contrastes. Là. Mais oui, ben, je pense que quand on va le voir en papier, ça devrait pas
être plus facile. Problème, là.
Sinon, ben, c'est le retour de Galta. Je viens d'en parler. Là. Galta, là, c'est encore une 12-12. Cette fois pour 5 colorless et 3 mana verts. 12-12 Trample. Quand Galta Stampede Tyrant rentre sur le battlefield, tu mets n'importe quel nombre de creature cards de ta main sur le battlefield.
Parce que
Galta arrive pas tout seul, les amis.
Ben non, toi. Sacrement.
Ok, pour 8 mana, là.
Moi,
je vais jouer encore, moi, avec mon. le Force of Nature, il était 8-8, là, il coûtait 6 puis 4 d'upkeep. Voyons, c'est Power Creep, moi, ça.
Ah,
ouais,
c'est cool.
Parmi ces créatures, j'avais un Creature of Behemoth, justement.
Tu joues Galta, tu peux vider ta main de toutes tes kobolds pour zéro.
Hey, hein? Ça, c'est. Bien passé. Fait que oui, on risque de revoir pas mal là, les Elder Dinosaurs, les Primal Dinosaurs. Il y avait un artwork qui nous avait fait sourire quand il avait commencé à montrer Ixalan. C'était un des dieux là, du monde intérieur de Ixalan, là, parce qu'on apprenait que la planète était creuse. The truth is out there. Et puis, c'était un des dieux qui avait comme une main en tête de dinosaure, là, fait qu'il l'avait rebaptisé Dinosaur End. C'est Oyer Axonil, Deepest Might. 2 colorless, 2 rouges, 4-4 Trample. Si une source rouge que tu contrôles fait des dégâts, des non-combat damage qui est moins que le power de Olier Axonil à un adversaire, tu fais des dommages équivalents au power de Olier Axonil à la place. Fait que tu sais, là c'est une 4-4, fait que si tu fais un dégât non-combat à quelqu'un, ben tu y fais 4 à la place. Et puis lorsque Olier Axonil meurt, tu le retournes sur le battlefield de taper et transformer sous le contrôle de son propriétaire. Puis ça, c'est le retour d'un type de carte qui existait dans le dernier set de Ixalan, c'est les Lend. Les Lend qui flippaient. T'avais un set d'enchantements et d'artefacts là, principalement qui se transformaient quand tu répondais à certaines conditions, qui se transformaient, qui revenaient en Lend. Donc on peut imaginer qu'il y aura un nouveau cycle de ces types de cartes-là. Donc celui-ci, c'est le Temple of Power que tu peux taper pour un rouge ou tu peux payer 2 colorless un rouge le taper pour transformer Temple of Power. Activer seulement si les sources rouges que tu contrôles ont fait 4 ou plus non-combat damage ce tour-ci et seulement en sorcery. Fait que tu peux le ramener en tant que Oyer Axonil. Fait que peut-être qu'on peut s'imaginer qu'il y aura peut-être un dieu pour chaque couleur qui va peut-être pouvoir revenir comme ça. Là. C'est drôle. Ils trouvent toujours des nouvelles façons de donner indestructible ou... au dieu. Là,
le dieu peut revenir constamment.
Ajouter de la persistance.
Le rebrasser cool. Troisième dans ton library, le remettre dans ta main, il est juste indestructible, toutes sortes de choses comme ça. Fait que là, ben, il se transforme en laine, puis tu peux le ramener.
Il retourne chez eux en attendant que
satisfait sa soif de pouvoir.
Amène de la souffrance puis du chaos, puis je reviens.
Yep. Un reprint qui amène le Cavern of Souls, les joueurs de créatures se pissent dessus, mangent ça, les joueurs de contrôle, les counterspell et tout ça. Cavern of Souls là, qui tu choisis un creature type qui est rentré en jeu, tu peux le taper pour colorless, puis sinon tu peux ajouter un mana de n'importe quelle couleur pour caster un spell de creature que tu as choisi et le spell ne peut pas être countered.
Oh, hey,
c'est hot, ça.
Et vous verrez, le artwork est un peu particulier. C'est qu'il ramène le treatment néon. Là, il avait fait ça avec Hidetsugu dans Neon Dynasty, qui avait comme 8 version là, avec des, une espèce de highlight là, mauve, ça ressort, rouge, jaune, bleu, etc.
Ça,
ils vont le faire avec Cavern of Souls.
Ça ressort bien. J'avais pogné un Secret Lair. T'as dit quoi? C'est Ghost Prison qui est un staple en Commander. Puis sérieusement, c'est comme, je suis pas le genre à m'amuser avec une Blacklight pour regarder à quel point le... Le quand c'est bien fait, genre l'infographie est bien fait, parce que je veux pas, c'est que ça pop, là, c'est comme c'est comme
ça flash.
Ce genre de design-là, puis ces couleurs-là, ça fait très peinture Navajo, genre méso-américaine. J'aime bien ça.
Il ramène aussi là, dans les boosters. En fait, il amène un nouveau type de carte dans les boosters, dans les collecteurs boosters. Ils appellent ça les guest stars ou quelque chose. Special guests. Qui est comme de liste, mais plus.
OK.
On n'a pas trop de détails là-dessus, là, mais tu sais, celui qui ont teasé, c'est un Mana Crypt. Qui ramène dans certains boosters avec un artwork différent et le traitement néon là, comme on voit sur Cavern of Souls. Fait que tenez-vous-le pour les collectionneurs. Sinon, également avec Ixalan, c'est le tie-in, on en avait parlé. On peut voir la carte Welcome to, trois petits points. Gâchez-le pas pour les auditeurs, là, ceux qui le voient en visuel, vous le saurez tout de suite. Mais un colorless, deux verts. C'est une saga, quand elle entre en jeu, pour chaque adversaire, un non-net creature artifact que tu contrôles, qu'il contrôle, devienne un 0-4 wall defender jusqu'à la fin, jusqu'à ce que la saga quitte le battlefield. Ensuite, toi, tu te crées un 3-3 green dinosaur creature token avec trample qui a ace jusqu'à la fin du tour. Et troisième chapitre, tu détruis tous les murs, hein, que tu avais si gentiment donné à tes adversaires. Tu exiles la saga et tu la retournes sur le battlefield transformée sous ton contrôle parce que c'est Welcome to Jurassic Park.
Excuse, je c'est excellent là, puis genre je suis content qu'il ait ramené les dinosaures sans plumes, mais je viens de voir c'est quoi l'acronyme du CERT, puis je trouve ça vraiment Rex. Vraiment là.
Ah ben oui,
toi. RX, ouais. Ça allait de soi. La saga se transforme en Jurassic Park. C'est un Legendary Land. Tous les dinosaures dans ton graveyard gagnent Escape. Ooh. Et puis le coût de Escape est équivalent à son mana cost plus exiler trois cartes dans ton graveyard. Ooh. Tu peux rajouter un vert pour chaque dinosaure que tu contrôles en le temps.
Calice, hein?
Yes. Fait que oui, tu sais, il ramène, ça va fonctionner comme il y avait les Transformers avec Brothers War, où est-ce qu'il va avoir certaines cartes inspirées de Jurassic Park.
Il y a ouais, je comprends.
Qui vont être dans les set boosters puis les collector boosters.
On est-tu en train de comprendre par contre qu'il va y avoir du Escape dans la série qui s'en vient?
Non.
Ou c'est juste celle-là, là?
Non, c'est des cartes hors série.
OK, c'est bon.
C'est un peu comme la mécanique Robot in Disguise, qui je pense qu'on n'en reverra pas de sitôt.
C'est ça, là. C'est des cartes à côté. Là. Considère ça comme un genre de Secret Lair là, qui est inséré dans des boosters.
Voilà.
C'est pas dans les boosters de draft. Là. Tu vas pas drafter un Iron Malcolm Catishun, par exemple. Tu vas pas...
On peut pas les avoir sur Arena, mettons.
Non, ce qui veut pas dire qu'ils vont pas les mettre pour un événement spécial, là, mais on n'a pas vu la seule affaire qu'on a vu des Transformers, c'est des sleeves, là, avec les artworks qu'il y avait sur les cartes, mais that's it, les cartes sont pas dans Arena. Ça risque d'être la même chose avec ça. Le Iron Malcolm, un colorless, un rouge, un bleu, une 2-2. À chaque fois qu'un joueur pige la deuxième carte chaque tour, ce joueur-là exile le top card de son library. Chaque tour, ce joueur-là peut caster le spell parmi les cartes qu'il contrôle, qu'il possède, exilé avec Iron Malcolm, Catshin, et peut payer le mana de n'importe quel type.
Holy shit, ok, ben oui.
Les caster, c'est une espèce de. C'est ça, c'est du chaos, mais magic, là.
C'est ben whack. Ça veut dire que c'est quand tu joues, mettons, parce que c'est clairement probablement une carte de Commander, là.
Oui,
n'importe
oui,
quel joueur peut jouer n'importe quelle carte qui est exilée.
Qui a été exilée, éventuellement, ouais. Ça risque de faire des drôles de games,
ouais.
Sinon, t'as le Indominus Rex Alpha.
Un colorless,
deux mana hybrides bleu-noir et deux verts, un dinosaure mutant. Une 6-6, quand tu rentres sur le battlefield, tu discartes n'importe quel nombre de creature cards. Ça rentre avec un flying counter.
Oh.
Si une carte que tu avais discartée avait flying, ace, si une carte que tu avais discartée avait ace, etc. pour toutes les keywords. Et quand Indominus Rex rentre sur le battlefield, tu piges une carte pour chaque counter qu'il y avait dessus. Fait que c'est thématique, là. Ça te ramène, ça il gagne les pouvoirs, dans le fond, des dinosaures tu sacrifies, là, pour.
Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu des protection from.
Ce que j'avais entendu dire, c'est que design wise, il préférait comme aller vers des affaires comme Exproof ou quoi que ce soit, parce que le monde se souvenait, fallait qu'ils sortent constamment leur cellulaire ou le livre d'instruction pour savoir c'est quoi les 4 affaires que ça fait ou les 5 affaires que ça fait.
Peut pas être target.
Ouais. Je sais qu'il y a un acronyme là, mais.
Ouais. Mais tu sais, ça revient sporadiquement. Ça sera jamais une mécanique très, très importante. On s'en reparlera quand on parlera du Stormscale. Voilà pour Ixalan. Là, ils ont aussi teasé le nom des Commander Deck. J'aimais bien celui qui s'appelait le Velociramp Tour.
Oh non, ils sont allés là. Magic est mort. Magic sont supposés faire des cartes, pas des jeux de mots. Là, tu vois ce qu'ils ont fait là?
Ils en font pas mal.
Ah, on va tous mourir, esti.
Yep. Sinon, à la fin de l'année, début de l'année prochaine, avant de retourner sur Ravnica comme tel, on se plonge dans le passé de Ravnica. Là, c'est le Ravnica Remastered. Ils ont commencé à montrer là, des cartes. Ils vont ramener les Shocklands qui étaient très marquantes de ce set-là. Donc Steam Vents, etc. Là, la série complète sous deux traitements différents avec le Old Border, mais également en artwork là, borderless, vraiment très beau.
Puis,
je pense que ça représente comme le aftermath de l'invasion phyrexienne, là, où est-ce que Ravnica se remet tranquillement des dommages qu'elle a subis. Vous irez voir le artwork de chacune des lands. Tu vois sur pas mal de ces cartes-là, justement, des échafaudages, puis des scaffolds, puis des trucs là, où est-ce que ça se reconstruit. Fait que on suit l'histoire, même si c'est un set qui
du passé, non?
Ouais, entre guillemets, là, du passé, là, de reprint. On tease quand même un peu là, qu'est-ce qui se passe dans l'histoire. Là, fait que c'est les retours de Birds of Paradise.
Okay. Ce que tu veux dire, là, c'est. Ils reprint des vieilles cartes pour nous faire redécouvrir des affaires, parce que ça fait quand même 20 ans tranquillement.
C'est exactement ça. Ils vont chercher des cartes de toutes les sets.
Les avoir sur les cartes vont avoir, eux, la temporalité correcte. Ok, je comprends.
C'est ce que j'ai vu là, avec ces lands-là. Là. Je ne sais pas s'il y aura d'autres cartes qui auront ça. Là, on peut voir, il y a Atomic qui revient. Je voulais montrer juste pour vous poser une question. Est-ce que vous voyez quelque chose qui cloche? C'est dommage, là, Jason, peut-être qu'il l'aurait spoté.
Qui cloche? Je me rappelle qu'il y avait l'espèce de petit foulard rouge, là, c'était comme un symbole parce qu'il était en couple avec Raz. Là, c'était comme deux gars, puis qu'en Chine, il aimait moins ça. Là.
Il a perdu sa couleur bleue.
C'est un reprint. En fait, c'est que il y a le watermark de Azorius sur la carte, alors que c'est le acting chief de Orzhov.
Ah ben Tabern.
Ah la boulette. Je sais pas ce qui s'est passé là.
C'est une vraie erreur ou peut-être qu'il y a.
C'est possiblement une erreur, là, un print à quelque part. Il n'y a pas eu des ratas toujours. Ben, ça, tu n'es pas encore sorti.
Non, c'est ça.
Mais c'est l'image qu'ils ont envoyée de Atomic. Puis il y a du monde qui font comme il me semble que ça marche pas cette histoire-là. Parce que oui, c'est celui qui lead la guilde des Orzhov en l'absence de
Kaya.
Niv-Mizzet qui revient avec un Old Border Gold. Moi, personnellement, je suis pas friand de ce border-là.
C'est un clin d'œil clairement de légende, là, mais.
Oh, oui, c'est le vieux, mais je trouve qu'il fait vieux. Je trouve qu'il paraît comme. quand je vois ce border-là, je vois des cartes des Merlaeus. c'est cool, là, mais c'est pas mes préférés.
C'est pas ta tasse de thé.
Nope. Mais lui, par exemple, ça, c'est ma tasse de thé. Il y a quelques artworks animés qui ont sorti, dont Fibble Tip de Lost, My Guy Fibble Tip. Il y a un beau petit artwork, là, c'est sûr, je vais essayer de m'en trouver un quelque part. Puis, sinon, il y a justement le partenariat de artwork différents. Ils ont sorti les Spooky. Secret Lair qui vont sortir bientôt. Il va y avoir des Creep Show, un tie-in avec The Creep Show. Chaque carte a comme deux côtés avec du artwork, puis de l'autre bord il y a une espèce de bande dessinée avec à la place dans les bulles. T'sais, c'est comme s'il y avait une bande dessinée, mais c'est vrai, c'est le texte de la carte.
C'est donc belle,
fait que là, il y a Grimgrin, Cobsborn, c'est très thématique, là, le Dead Baron, etc. Vous irez voir ça. C'est quand même, c'est le fun. Là.
J'aime ça qu'il ait ramené les personnages du Creepshow et des bandes dessinées. C'est EC Comics pour ceux qui en veulent plus, là, qui avaient popularisé le genre. Là, ils ont mis GN en haut, là, mais c'est des classiques.
On est des années 80 again.
Oh yeah.
C'était possible.
Yes. Sinon, un autre Secret Lair de Yours, Evil Dead. avec c'est des reprints avec un nom différent. Là, c'est Ash, Destined Survivor.
Ça, c'est avant qu'il perde son bras, là.
Oui. Oui, il tient sa chaîne ça avec ses deux mains. Donc oui, c'est un reprint de Pure Steel Paladin. T'as Cabin of the Dead qui est Field of the Dead. Il y a cinq cartes là, comme ça, cinq ou six. Là. Il y a même un token de zombie là, avec des flavor text de l'univers de Evil Dead. Tant qu'à être.
Parce que l'univers
peut-être, ouais. C'est compliqué, les guerres de copyright. Sinon, ben, tant qu'à avoir une collaboration avec Doctor Who, on va le faire au complet. On n'avait pas vu dans les cartes qu'il avait annoncé encore les Weeping Angels. Il y en aura sûrement. Mais là, ils font un Secret Lair complet de Weeping Angels avec des Angels, des cartes d'Angels de Magic. Là. T'as l'Angel of Serenity, Angel of the Runes. Il y en a toutes sortes là, qui reprennent les arcs.
Les anges de Doctor Who.
Je pense que c'est dans les créatures qui ont été inventées dans la nouvelle mouture, là, qui est celle qui a le plus marqué. Parce que si tu fermes tes yeux, ils avancent. Mais si tu ouvres tes yeux, ils gèlent, tu sais.
C'est ça.
Puis s'ils touchent, tu t'en vas dans le temps. Tu te téléportes dans le temps. Fait que l'épisode, c'est un two-parter, pis c'est vraiment une des meilleures.
C'est une bonne run, pis ça sort très creepy. Là.
Oh ouais, c'est le gars qui s'est ramassé à faire Sherlock, pis plusieurs autres gros shows pour la BBC. Pis c'est
ça. Qui revient d'ailleurs, là, qui revient pour la nouvelle mouture qui s'en vient. Là. La nouvelle saison, c'est Russell Davis. Ouais, Russell Davis.
Qui a aussi fait une bonne run. Pis c'est ça, l'idée, c'est qu'ils se nourrissent de l'énergie de où ce que tu serais normalement dans le temps.
Et voilà. Ah. Fait que, puis là, regarde, tu vois, là, comme la Statue de la Liberté est un Weeping Angel, mais étant donné qu'il y a tellement d'êtres humains, il y a tout le temps quelqu'un qui regarde la Statue de la Liberté, fait qu'elle est tout le temps, elle est jamais là, elle peut pas bouger.
C'est ça le concept. Sinon, il y a un autre Secret Lair de Dalek, où si vous voulez des Dual Land avec des paysages, avec les invasions de Dalek, là, Exterminate All Over, c'est là que ça se passe. Et puis, ce que je n'avais pas sur ma carte de bingo pour 2023, c'est une carte de Magic avec André the Giant dessus. mais il y aura un Secret Lair de Princess Bride, Battle of Wits, qu'on peut voir avec You Fool, You Fell Victim to One of the Classic Blunders.
C'est bien niaiseux comme enchantement. C'était plus que 200 cartes, tu gagnes.
Ouais, mais ça, c'est une carte qui existe dans Magic. Là, si tu l'avais jamais vue, là, au début de Top Keep, si t'as plus que de 200 cartes, là, y a plein de monde qui ont essayé de faire des
oui,
qui fonctionnent avec ça.
Ça, sérieusement, là, des fois, je fais des decks mono bleu en Commander, puis je la mets dedans juste pour payer 5 bleus que tout le monde fiche puis jouer Battle of Wits. La phase du monde, l'opposition cognitive que ça fait, tu viens de gagner moralement la game.
C'est ça. Ben là, tu vas pouvoir le jouer avec, hey, avec une version de Princess Bride pour jouer sur plusieurs niveaux.
Ben oui.
Ben oui, tu sais, on peut voir le Wesley qui est Finn de Fangbearer, le reprint de Finn. Puis je vous parlais de André le Giant, le Fedic Rhyming Giant, qui est un reprint de Brian Stotharm. Ils ont tout à peu près un artwork là, qui se ressemble. Sinon, John Haven.
Ah, excuse. Oui, tu vas-y. Me permets, juste le Special Burger qu'ils ont fait là-dessus, juste mentionné, ouais. C'est très inspiré de, je pense, c'est Sébastien Moura. Un artwork qui est souvent récupéré, qui a été popularisé parce qu'il a fait des super belles femmes entre gelées comme une balle entre, pour des paquets de papier à rouler. Ça virait épique.
Oh boy, okay.
Mais c'est drôle parce que encore aujourd'hui, son artwork est récupéré. Le monde imprime ça sur des canettes de bière partout à gauche, à droite, puis. Quand tu sais que ça vient, c'est un petit peu humoristique, mais vous allez regarder ça. Mouha, nice. c'est un grand de l'art nouveau. Là.
Sweet. Sinon, oui, John Haven aura son Secret Lair, le 4 reprint avec un nouveau arc là, qu'ils ont donné. Emrakul de Promised End, de Sarah Angel, entre autres, là, avec l'art de John Haven, qui est quand même un des artistes les plus connus et reconnus de Magic, là, surtout pour ses lands. Sinon, parlant de land, il ramène des Pixel Land. Il avait sorti, c'était des Snowlands la dernière fois qu'il avait fait ce traitement-là de Pixel Art pour des Full Art Land. Cette fois, c'est des Basic Land. Là. Il y en a une de chaque. Et puis également, une espèce de truc plus artistique là, qui appelle Meditations on Nature.
De l'encre sur toile.
Sur toile d'art asiatique. Là. Voilà, là, c'est pour les collectionneurs, pour ceux qui veulent des cartes un peu différentes. Là, c'est ça qui se passe dans le monde du Secret Lair. Puis c'est tout ce que j'ai à vous dire pour l'instant.
Ah, maintenant que ça en fait du stock pareil, là.
Ben oui, hein.
On est passé par la princesse Bouton d'Or, puis des dinosaures au centre de la Terre, puis tabarnak, Emmanuel. Ça va nous amener à la carte de la semaine, une présentation de l'adversaire 4303 Sainte-Catherine-Est. Checkez ça, là, le Facebook, puis tout. En attendant, on écoute du beat à bombe pour aller vers la carte de la semaine. Hey, il y a une carte de la semaine, ça va être capoté, là.
Elle va être capoté. Je prends un petit peu d'avance sur la deuxième partie du show où est-ce qu'on va parler du World Championship. Puis j'ai sorti une des cartes qui a fait le plus de vagues en fin de semaine au World Championship qui se jouait en standard. Et ce n'est pas nécessairement la carte que vous pensez. Là, je parle de plus de vagues dans les nouvelles cartes de Wilds of Eldraine. Ouais. Une surprise là, quand le monde l'a vu dans les decklists, ils ont fait comme « Ah ouais? » C'est pas une grosse mythique rare, c'est pas une créature trop puissante. Non, c'est le Up the Beanstalk. Une carte que même en draft, je regarde pas deux fois. Là, je suis « Ouais, peut-être. » C'est un colorless, un vert, un enchantement, quand elle rentre sur le battlefield, ou que tu castes un spell avec mana value 5 ou plus, tu piges une carte. That's all. Mais c'est une carte qui a trouvé sa niche on en a déjà parlé dans des shows précédemment dans les decks de domaine de ramp où est-ce que le but c'est de caster des grosses spells. C'est un engine de plus pour te permettre de remplir ta main de grosses spells pour trouver des nouveaux grosses spells puis ensevelir ton adversaire sous le value. On a vu du monde là, puis en avoir trois en jeu, puis ça.
Ah boy, ouais.
Ça y allait au poste.
J'avoue, ouais.
Ça y allait au poste. Là, oui, je joue à Traxa, je mets 5 cartes dans ma main, puis je pige 3 cartes de plus. bonne chance pour revenir de ça. Là. Oui, c'est étrangement, moi j'ai trouvé ça intéressant de voir comme l'impact là, entre guillemets. Là, ça a pas brisé la méta, ça a pas complètement warpé le tournoi. Mais c'est une des cartes là, que qui est arrivé un peu la field.
Là, ouais. Un peu partout. Là.
Ah, c'est le fun de voir une Uncommon qui sort du lot. Là, comme ouais. les
qui a l'air de rien, là, ouais, c'est ça, qui a l'air de rien après ma barre, puis là, tout d'un coup.
Ouais. Ouais. Pour deux manas, t'as un enchantement jeu qui se remplace, puis après ça, dans deux, trois tours, ça va payer à chaque tour.
Mm-hmm.
Quand même pas pire. Ouais,
absolument. Fait que voilà, c'est ce que j'avais à vous proposer, puis on pourra regarder ensemble là, plus en détail les decklists avec voir les autres cartes là, de Wilds of Eldraine qui ont peut-être fait leur marque là, dans le standard.
Fait qu'on va aller rajouter du relief à cette carte de la semaine. Merci Emmanuel. De beat à bande pour aller vers la dernière partie de l'émission. On s'en va à Las Vegas, si j'ai entendu dire.
On s'en va à Vegas. C'était le championnat du monde qui regroupait les 105 meilleurs joueurs de Magic sur la planète qui avaient gagné leurs invitations là, de différentes façons en jouant les Pro Tour, les Qualifiers, etc. Donc, ça se passait là, sur trois jours, comme d'habitude, la formule à laquelle on est rendu habitué, avec trois rondes de draft le matin du dernier set. Là, on draftait le Wilds of Eldraine. Ensuite, on jouait en construit standard, quatre rondes, et puis on répétait rinse and repeat le jour 2 et jour 3 pour le top 8, qui était du single elimination de best of 5, où il n'y avait pas de sideboard avant la troisième game. Fait que tu jouais les deux premiers matchs, pas de sideboard, puis ensuite tu pouvais sideboarder. Ça a donné quand même des matchs intéressants là. Moi j'aime toujours ça quand il y a des drafts là, au plus haut niveau là, si on veut là, de Magic, de voir les joueurs, les top joueurs jouer en limité. Et puis c'est toujours une bonne façon de voir qu'est-ce qui se passe là dans les différents formats. C'est sûr que c'est pas nécessairement là, ce qui se passe sur le ladder, sur Arena et le tournoi de standard du World Championship. Ça se peut que ça soit pas tout à fait la même affaire, mais on peut voir un peu là, les decks qui en ressortent. Vous constatez là, qu'il y a beaucoup de Esper qui est là. Principalement sous la forme de Esper Midrange, qui était comme 20 decks sur les 105, puis Esper Legends, qui en avait un petit peu moins, les 9. Mais à Russell, là, ça faisait à peu près 25-30% du field. On voit que Fable of the Mirror Breaker son ban a quand même changé un peu. Esper Legends, c'est drôle, là, c'est un deck qui avait fait quand même sa marque v'là plusieurs mois, puis là, qui revient tranquillement là, en avant.
Monorail d'agro ou gris, comme dans...
Oui, la deuxième liste la plus amenée avec 10, c'était le monorail d'agro. Il y a toujours à chaque tournoi là, du monde qui essaie d'y aller vite, mais honnêtement, ça n'a pas super bien été pour eux. Là. La méta est très, très mid-range. Il y a beaucoup de... faut que tu sortes bien. Là. Ça te prenait... Ça te prend un bon game plan puis que tes cartes sortent bien là, pour pouvoir t'en sortir en mono red aggro là, dans la méta actuelle. Là, vous voyez sinon là, les Domain Ramp, etc. Golgari Midrange, qui est un nouveau deck là, qui est beaucoup servi par les cartes vertes et noires de Wilds of Eldraine. On va regarder plus en détail là, avec le top 8. Voilà, on avait le top 8 là, avec on reconnaît pas mal des gros noms. Il y avait Jean-Emmanuel Deprat, le français, qui après avoir eu une année une excellente année là, en 2019, 2020, 2021, là, il y avait eu comme une série de sur quatre tournois. Il en avait fini trois deuxièmes. Aux avant-derniers World Championship, il avait terminé deuxième. Il avait perdu contre Yuta Takahashi. Il gravitait, puis il était comme sur le bord. Il y a eu un peu moins de succès là, dans la dernière année, mais là, il revenait du top 8. Sinon, Simon Nielsen qui a gagné le titre de joueur de l'année. Ça, c'est qui se gagne avec la constance sur toutes les. Dans le fond, chaque championnat, ils font des points pour le classement de joueur de l'année. Puis c'est Simon Nielsen qui l'a remporté. Et je pense pas qu'il y ait personne qui a été déçu. Là. C'est un bonhomme très, très, très sympathique à regarder jouer. Là. Il est toujours le gros smile. Il est toujours.
Il est comme Jean-François Provençal.
Il y a une très belle énergie. Il y a une très belle énergie. Là. Moi, je l'aime bien regarder jouer. Anthony Lee qui a eu un excellent tournoi. Reed Duke qui est un des favoris de la foule. Greg Orange, le deck builder. Là, lui est arrivé avec son propre deck là, qui n'était pas une liste que personne n'avait vraiment de bent. Bent Midrange qui appelait le Greg Pyle. Willie Edel, un Brésilien, un Italien. Fait que vous voyez, là, il y a quand même une grosse variété de joueurs. Il y a deux Américains, puis sinon, c'est toutes des nationalités différentes. Là.
Fait que c'était partout à travers le monde, là, c'est fascinant. Oui,
t'as le Japon, Australie.
Tout le monde est représenté.
Ouais. Fait que c'était quand même un bon top 8 qui se sont battus. Puis là, vous voyez les decks qui se sont rendus. T'avais principalement du Esper. Il y avait Simon Nielsen avec sa liste de Azorius Soldiers qui était comme un peu aggro mid-range plus axé sur les créatures. Puis ça s'est terminé là, avec un duel de Esper. Là. C'était principalement les meilleures combinaisons là, souvent. Mais aussi ça prend des bonnes personnes puis les piloter. Puis ça a été finalement remporté par Jean-Emmanuel Depras. Il a eu son titre. On le félicite. Nouveau champion du monde. On a bien hâte de voir quelle carte il va designer.
Esper, c'est blanc, bleu, noir.
Blanc, bleu et noir. Ouais. C'est un deck qui est surtout axé autour de Raffine, le Scheming Skier, la carte de Streets of New Capenna, parce que là, on se rappelle que Standard n'a pas eu de rotation cette année, là, fait que il y a beaucoup de cartes dans le pool. Fait que Raffine, là, oui, qui te permet de connive X pour chaque créature qui attaque sur une de tes créatures.
C'est un 4-4 pour 3.
c'est 1-4 flying avec Ward 1, là, c'est quand même c'est nasty là. La principale carte qu'il y avait du nouveau set dans son deck, c'est le rat, Lord Skitter Sewer King. le rat avec un beau petit nez. C'est un deck qui est quand même qui a beaucoup de value. Chaque carte a un impact et même les lands, parce que c'est, je dirais que c'est le deck qui met le plus d'emphase ou qui profite le plus du texte supplémentaire qu'il y a sur les Channel Lands. Ah. Tu sais, Otawara, il y avait 3 Otawara, 2 Igenjo, 2 Takenuma. C'est qu'on l'oublie souvent, mais sur ces cartes-là, ils coûtent un de moins pour chaque créature légendaire que tu contrôles.
Ben oui. Ben oui.
Fait que tu te retrouves souvent à caster un Otawara pour bouncer une créature, un enchantement, un Planeswalker pour un bleu,
ben oui.
Deux peut-être.
Puis tu tapes rien en plus, là. Fait que c'est comme tu peux payer le nombre que tu veux.
Oui, c'est aussi vu que c'est un channel, ça contourne beaucoup de trucs, là. Tu peux pas le counterspell.
C'est le fun que ce soit un deck basé créature de même qui gagne, me semble. C'est, en tout cas, j'aime ça, ça fait du bien.
Oui, effectivement, c'est vrai, c'est une bonne observation. C'est un deck où est-ce que c'est les créatures qui font des choses. Puis, ouais. Tu le vois aussi que sur les créatures, il y a des effets comme Ertai qui a quand même été bien performé. Ertai qui a flash, puis quand tu rentres en jeu, soit tu counter un spell ou tu détruis une créature, puis le contrôleur du spell ou de la créature pige une carte. Tu sais, ça avec. Chez Aldred, c'est pas vraiment un malus, là.
Right.
Chez Aldred en jeu.
Je me demandais si Ertai était pour être joué, parce qu'un, il counter n'importe quoi ou presque, puis, mais il coûte 4, fait que c'est...
Il est un peu cher.
Il est un peu cher, mais je suis heureux de le voir.
Tu peux péter la créature aussi, ton counter, il est comme moins... Time relevant, time dependent. Là.
Puis tu donnes un bonus à l'autre en le faisant piger aussi. Là, fait que...
Ouais, mais ça, si t'as Sheldred en jeu, ben c'est qui a le bonus, hein? C'est un peu tout le monde. un peu tout.
Oui, c'est drôle des fois. Il y avait souvent des mirror match de Sheldred. Puis là, c'est le moment parfait pour faire du apnap, là. Active player, non-active player, pour savoir qui fait ses triggers en premier. sinon, un des héros du deck, c'est Skrelv, qui te permet de protéger tes créatures et de éventuellement peut-être même attaquer pour avec une créature qui peut pas être bloquée, surtout si tu l'as boosté avec Raffine. Tu peux le taper soit pour un blanc ou pour deux life, parce que c'est du mana phyrexien, pour donner hexproof de la couleur de ton choix until end of turn, et elle peut pas être, la créature peut pas être bloquée par une créature de cette couleur-là.
Il y a beaucoup de loop dans tout. Il y a beaucoup de combos,
qui se passent. <C'est ça. rire> parlant de loop, il y a malheureusement pas de liste qui s'est rendue au top 8, mais il y a eu quelques listes qu'on peut voir qui amenaient le chaudron. Je vais essayer d'en trouver là.
Ah ouais, on retourne.
Agatha's Soul Cauldron. Il y a quelques listes, il y en avait dans le mono bleu puis en simic, qui était vraiment un deck de combo, qui ont essayé vraiment de trouver à travers toutes les sets disponibles des combinaisons de créatures que tu pouvais aller chercher pour booster ton Agatha's Cauldron, qui te permet de, pour un petit rappel rapide, le t'exiles une créature d'un graveyard, tu mets +1/+1 counter sur une de tes créatures, puis toutes les créatures que tu contrôles qui ont +1/+1 counter gagnent les activités d'abilities de toutes les créatures que tu as exilées avec Agatha's Cauldron, ce qui te permet de faire toutes sortes d'affaires assez funky. Souvent, là, ça s'y jouait avec un Cami of the Lost Hopes qui tape pour un mana de la couleur de ton choix selon son power. Fait que ça, tu peux, si tu l'as exilé, ben tu peux donner ce power-là à quelqu'un, ou tu lui donnes le power de quelqu'un d'autre, par exemple le Sleep Cursed Fairy que tu peux untaper pour un colorless un bleu. Si t'as une créature qui tape pour 4 de mana, que tu untapes pour 2, tu fais des loops. Mana, elle est finie. Puis c'était de trouver des créatures là, pour faire quelque chose, puis finir la game. Il y avait le gros dragon 6-6 de Wilds of Eldraine que tu peux payer un rouge, un colorless pour faire un dégât n'importe quel target. C'était d'essayer de trouver là, les combinaisons de cartes pour réussir à créer une espèce
de loop infini.
Ça marchait des fois. C'est un deck qui est comme quand même dur à piloter, puis qui s'appuie sur beaucoup de
staples guard là.
Ouais, faut qu'il y ait beaucoup de choses qui aillent bien. Puis t'es complètement blanked par une carte comme Farewell, genre qui exile tout. C'est quand même le fun de voir les games les joueurs jouer ces decks là, parce que au début tu regardes la liste, tu fais comme qu'est-ce qui se passe. C'est quoi ce deck-là? Qu'est-ce que tu essaies de faire? Parce que tu as toutes sortes de cartes là-dedans que tu n'as jamais vues. Une carte de Aftermath qui réduit de 2 colorless les activités d'abilities de tes créatures. Donc là, ça, c'est super bon dans ce deck-là, mais personne n'a jamais joué ça. Là. Peut-être en Commander sûrement, là, mais.
Fait que tu es en train de dire que ce World Championship était vraiment excitant cette année.
Oui, c'était le fun à regarder. Je dirais le seul bémol dans les premiers jours, c'est qu'il y a eu beaucoup. Il y a eu beaucoup de games qui se sont rendus au temps. Il y a eu beaucoup de games qui se sont finis soit sur un nul, soit sur un gentleman agreement. Ok, je te donne la victoire parce que toi, tu as une chance de peut-être faire le top 8 puis pas moi. Des choses comme ça.
C'est plate, un peu, ouais, je comprends.
Mais il y en a eu pas beaucoup, mais il y en a eu quand même pas mal là, qu'on a vu sur le coverage. Mais le top 8, là, c'était vraiment le fun.
C'est ça qui est important. Regarder, le meilleur a gagné avec le meilleur deck.
Je sais pas si c'est le meilleur deck, là, mais.
Ou proche.
Ouais, on va dire.
Arg Wilbly, le meilleur deck, c'était lui, le Domain Ramp, là, avec Atraxa, Invasion of Zendikar. Une des nouvelles cartes là, qui s'est ramenée, c'est les deux Virtues, là, dans ceux qui jouaient blanc ou noir. Il y avait le Virtue of Persistence dans le noir, là, l'aventure sur un sorcery qui donne -3/-3 à une créature jusqu'à la fin du tour et tu gagnes 2 de vie. Et son gros côté, là, l'enchantement pour 7, là, 5 colorless, 2 noirs. Au début de ton upkeep, tu mets une créature d'un graveyard sur le
Battlefield. Ben oui, hein? En plus, ouais, c'est vrai, c'est un graveyard, pas ton graveyard.
N'importe quel. Avec, tu te ramènes ton Atraxa, tu te reprends toutes tes cartes. Et puis sinon, il y avait dans le blanc, je pense que lui, il en jouait dessus. Non, il jouait Wedding Announcement. Esper Midrange, il en jouait Les Virtues of Loyalty. Pour un colorless, un blanc, tu fais un 2-2 Knight Creature Token avec Vigilance. À noter que c'est à Instant Speed. Puis l'enchantement là, pour 3 colorless, 2 blancs, qui te, ça, c'est ça qui te fait gagner des games. Là. Au début de ton end step, tu mets un +1/+1 counter sur chaque créature que tu contrôles. Puis tu les untap.
Ben oui.
Fait que c'était des decks qui souvent là, jouaient aussi avec Wedding Announcements. Fait que tu te crées des petits 1-1 human. Quand ils virent, ça donne +1/+1 à toutes tes créatures. Ils jouaient les Lord Skater qu'on a vu tantôt qui créent un rat à chaque tour. Fait que là, tu te fais des. Ça faisait comme. Ah oui, ben ah, il y a 2 Wedding Announcements en jeu. Puis un Virtue of Loyalty. Il crée un rat. Ah, c'est rendu une 5-5. Là, fait que à chaque tour.
Ça va vite.
Ben, moi, ce que je trouvais drôle, c'est que j'ai vu beaucoup de Go for the Throat, puis moi, je le comprends, là, c'est un removal pour 2. Mais peut-être que je suis dans le champ, là, je suis pas super bien la scène compétitive, mais ça me laissait comprendre que Brothers War puis les grosses créatures artefacts, ils ont pas vraiment de présence.
Zéro.
Puis je sais quoi, le dernier genre véhicule creature artefact que je me souviens, c'est celui qui avait été banni de Kamigawa, puis je suis pas sûr.
Bankbuster.
Ouais,
mais Bankbuster, le monde le mettait jamais en créature de toute façon, fait qu'il était jamais un target à du removal de Bibit. C'était en fin de game, des fois peut-être en afterthought. Ah oui, c'est vrai, ça peut devenir une Bibit.
Et là.
Alors voilà, c'était ce que j'avais à vous dire là-dessus.
Ben, beau tour d'horizon. Hein. Merci beaucoup, Emmanuel, pour ça. Merci, Jonathan, aussi d'être passé nous voir. On rappelle la trame sonore.
La trame sonore, c'est Cadillac and Dinosaur, mais si tu me permets de faire un errata, c'est le nom de l'artiste, c'est pas Sébastien, c'est Alphonse Mouchard.
Alphonse. Sébastien, c'est plus cool qu'Alphonse. Que vous chercherez Alphonse Sébastien. merci beaucoup, Jonathan. Merci aussi, Andy.
Ça a été un plaisir, puis je ne vais pas aller désinstaller Arena, finalement.
Non. Si tu as trop de dumplings, moi, je connais quelqu'un qui est capable d'en prendre.
Va checker ça, là, je suis là-dessus. Là. Je travaille là-dessus.
Faites attention à vous autres, les gars. Merci aussi à nos auditeurs de participer. On est sur Facebook, gênez-vous pas pour nous écrire ou poster vos trouvailles dans un thread là-dessus. On est tout à fait très contents. Sinon, merci à Martin Godette qui s'occupe du montage Bond pour le beat, l'adversaire. Et tous les autres amis du club. Je pense que c'est ça. Hein? Mon nom, c'est Tommy Godette. Et je vous souhaite à tous... c'est vrai, on est disponible sur Spotify. Ça, c'est important. Et je vous souhaite à tous et à toutes d'être le moins manascrou possible.
De la famille H2O Web Media.